Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton et Maïlys André. Réalisée ce matin par Benjamin Hu et mise en ondes par Nicolas Delmas. Troisième volet de notre série consacrée à l'Italie. Après avoir évoqué la bataille politique qui se joue entre le nouveau gouvernement emmené par le désormais incontournable Matteo Salvini et l'Europe, après avoir parlé hier des disparités économiques et sociales qui touchent les territoires, place aujourd'hui à la jeunesse italienne, des jeunes particulièrement touchés par le chômage, le désœuvrement et le manque de perspectives. Jeunesse, la fin de la Dolce Vita, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je n'ai aucun futur dans mon propre pays.
Je suis très inquiet parce que je sais que je vais sûrement devoir partir à l'étranger.
En Italie, je n'ai jamais réussi à décrocher un vrai contrat. Je n'ai eu que des missions courtes. Et très mal payées. À Rome, par exemple, je gagnais à peu près 500 euros par mois.
L'Italie a perdu plus de 23 milliards d'euros. C'est la somme dépensée pour les études supérieures de ces jeunes, qui, une fois formés, vont exercer leur talent non pas chez nous, mais à l'étranger.
Une jeunesse italienne entre désarroi et désir d'ailleurs. Les jeunes Italiens sont de plus en plus nombreux à choisir l'exil. Faute de mieux, entre 2008 et 2015, ils sont 260 000 jeunes de moins de 40 ans à être partis vivre et travailler à l'étranger. Et pour cause, en Italie, le taux de chômage pour les jeunes actifs est massif. Près de 31% des moins de 25 ans. En tout cas, à en croire les derniers chiffres de l'Institut National des Statistiques. Et ce chiffre était même montré à 37% il y a quelques mois, et ce, malgré les tentatives politiques pour l'endiguer. Alors pourquoi les jeunes sont-ils plus exposés au chômage et à la précarité que leurs aînés? Comment comprendre que les politiques publiques ne parviennent pas à réenchanter une jeunesse italienne qui s'enferre dans un terrible sentiment de déclassement? Et quels risques économiques et politiques pour le pays? À ces difficultés touchant spécifiquement les jeunes s'ajoute un contexte général où l'immigration devient un catalyseur de toutes les colères. On le voit notamment avec la multiplication ces derniers mois des attaques racistes. Les Italiens, notamment les jeunes, sont-ils moins tolérants que leurs voisins face aux migrants? Ou bien faut-il chercher les raisons de cette xénophobie dans la dégradation de leurs conditions de vie? L'arrivée au pouvoir au sein de la coalition de la Lega, ouvertement anti-immigration, ne risque-t-elle pas de compromettre toute tentative d'intégration des nouveaux arrivants, alors même que l'arrivée de cette jeunesse immigrée pourrait constituer une opportunité pour cette Italie vieillissante? Autant de questions que nous allons aborder ce matin avec deux invités. D'abord, Ludmila Akone, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 1. À vos côtés, Emanuele Ferragina. Voilà, je le prononce correctement. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue et professeur à Sciences Po au sein de l'Observatoire sociologique du changement. On va commencer, si vous le voulez bien, avec la question du chômage. Le chômage des jeunes en Italie est absolument dramatique. Il est beaucoup plus inquiétant que dans tout le reste de l'Europe. J'évoquais tout à l'heure quelques chiffres. Il y en a un autre. Il y a eu un rapport de la Commission européenne l'année dernière qui établissait le taux de chômage des 15-24 ans, des moins de 25 ans, pardon, à 37% pour l'Italie contre une moyenne à seulement 18,6% pour l'Europe. Pourquoi cette spécificité italienne? Pourquoi ce chômage des jeunes est aussi important? Ludmila connaît.
Je pense qu'il y a un chômage des jeunes depuis longtemps et en particulier dans le Sud pour des raisons à la fois historiques mais aussi conjoncturelles. La situation s'est dégradée très fortement en Italie à partir de 2005 et en particulier après la crise des subprimes vers 2008. Il faut dire que les politiques sociales et aussi les conditions de réglementation du travail se sont aussi dégradées. Donc il y a moins de protection, de plus en plus de précarité. Et on voit que finalement le Jobs Act qui a été mis en place il y a 2 ans par Matteo Renzi n'a pas résorbé le chômage. Il a au contraire, semble-t-il, augmenté la précarité et donc aussi la pauvreté des jeunes.
Mais précisément, Emanuele Ferragina, la réforme du marché du travail de Matteo Renzi, elle avait comme grande priorité de lutter en particulier contre le chômage des jeunes. Et effectivement, quand on regarde ces effets, on se rend compte qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Quand on regarde la tranche d'âge des 25-34 ans, en réalité, c'est la tranche d'âge où on a créé le moins d'emplois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette réforme n'a pas été à la hauteur de ses ambitions? Et de façon plus générale, comment expliquer cet échec à donner des emplois aux jeunes? Pourquoi la force publique n'y parvient pas?
Bah en fait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut voir tout l'enchaînement de la réforme du travail qu'il y a eu en Italie dans les dernières 20 ans. Et en fait, ce qui s'est passé au niveau des politiques sociales et du travail est très simple. On a finalement choisi de garder un système de protection sociale qui aide surtout les plus âgés. On dépense 57% de la dépense sociale pour les retraités. Et il n'y a pas beaucoup pour le marché du travail et les politiques familiales. Donc, ce qui s'est passé sur le marché du travail, c'est qu'on a en fait mis tous les coûts du changement productif qui était dû à la globalisation, mais aussi au changement des systèmes productifs et l'achèvement de l'économie des services, sous les épaules des jeunes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui sont entrés sur le marché du travail avant 1996, ils ont des très bonnes conditions et avec des contrats à durée indéterminée. Tous les gens qui sont entrés après, ils ont eu des contrats très mauvais. Ce que Renzi a fait, pour revenir sur votre question, c'était d'essayer d'uniformer les conditions sur les marchés du travail pour les plus âgés et les autres, mais ça finalement, ça améliore pas la condition des gens plus jeunes, mais ça rend les conditions de tout le monde plus précaires. Donc en fait, ce qu'on fait en Italie, c'est qu'on a progressivement libéralisé les marchés du travail. Et la dernière réforme de Renzi, c'est en fait le dernier chapitre d'une histoire qui était longue pour 20 ans, où les pouvoirs publics, ils ont tourné les dos contre tous les gens qui rentrent sur le marché du travail.
Pourtant, officiellement, c'est pas ce qu'on a cherché à faire. Ludmila connaît, quand on entend Emanuele Fallardina nous dire que finalement, on a mis tous les coups sur les épaules de la jeunesse. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en Italie, on a quelque chose qui ressemble à une sorte de bataille générationnelle, au sens où finalement, les responsables politiques auraient fait des choix par lesquels ils auraient favorisé les plus anciens aux dépens des plus jeunes?
C'est en tout cas ce que les jeunes perçoivent. Parce que, vous voyez, là, on parlait de la réforme de Renzi. L'objectif, effectivement, de résorber le chômage avec cette loi, il faut quand même pas oublier deux choses. C'est que, un, on a en fait enlever tout ce qui était la possibilité de contester un licenciement abusif, et on a mis en place des systèmes de contrats très très à très court terme. Aujourd'hui, on a à l'heure actuelle des tout petits contrats, comme d'ailleurs ça se passe aussi dans d'autres pays d'Europe, hein, des contrats presque de journaliers, et on voit quand même qu'il y a non seulement une précarisation généralisée, mais aussi une augmentation. Je ne fais pas de raccourci immédiat, mais des accidents du travail, des accidents de travail mortels aussi, parce que il y a de moins en moins de protection, de moins en moins de garanties sur la sécurité et aussi sur la possibilité d'être résorbé lorsque on est licencié de façon abusive. Donc, si vous voulez, c'est quand même très embêtant, et ça, c'est quelque chose qui a été déjà effectivement, Manuel a raison, mis en place en partie dès 20 ans, ça fait 20 ans déjà, et progressivement on a diminué les garanties, la protection du travail sur les questions de sécurité, sur la rémunération et aussi sur les statuts. Et je voulais juste rappeler que le premier acte qui a été fait par Luigi Di Maio lorsqu'il est arrivé au gouvernement, ça a été de rencontrer ce qu'on appelle les riders en Italie, c'est-à-dire les coursiers à vélo, qui sont une des catégories les plus maltraitées en fait parmi ces jeunes.
Il y a aussi un autre volet qu'on pourrait interroger, c'est celui de la responsabilité des entreprises, parce qu'on a mis aussi un certain nombre de dispositifs en place pour pousser les entreprises à engager les jeunes. D'ailleurs, Berlusconi avait fait déjà des choses en la matière en supprimant toutes les charges sur les entreprises qui embaucheraient des jeunes en CDI. Et Matteo Renzi avait été sur la même ligne sur cette question-là. Et finalement, les entreprises n'ont pas plus embauché de jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Déjà, la possibilité de faire des contrats très 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 à très court terme a permis effectivement de créer des emplois, mais c'est des emplois, la plupart des emplois qui ont été créés pendant ces deux années de Jobs Act ont été des emplois précaires. Et là, ce qui disent les statistiques, y compris même l'Istat, c'est que on arrive à la fin des aides fiscales et des aides aux entreprises pour la création d'emplois. Donc, on va se trouver dans une situation extrêmement difficile parce que il n'y aura plus d'aide pour ces création d'emplois.
L'ISTAT, c'est l'Institut National des Statistiques en Italie.
Si je peux rajouter sur ce sujet, en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre. Vous pouvez donner des incentives aux entreprises pour embaucher des jeunes, mais la structure productive italienne est très arriérée. C'est-à-dire qu'en Italie, on continue à avoir un type de production, surtout dans les secteurs industriels, qui n'est pas compétitif au niveau international. Et les entreprises italiennes, c'est les entreprises qui investissent les moins en Europe sur les nouvelles technologies. Donc en fait, ce qu'il y a eu en Italie, c'est que les entreprises elles se sont assises un peu sur les acquis du passé. Ils n'ont pas su développer beaucoup la production. Et après, il y a une autre chose. L'Italie a une structure des petites entreprises qui n'est pas très capable de produire de l'innovation scientifique. On a fait ça très bien aux années 60 et aux années 70, ce qu'on appelait la troisième Italie au nord-est, avec la production de meubles ou de chaussures. Mais on n'est pas arrivé à se renouveler. Sans l'État, sans les supports de l'État d'une façon structurelle, on ne peut pas changer nos politiques industrielles. Et donc, si vous mettez ensemble politique industrielle qui ne marche plus par rapport à l'évolution des temps, les court-termismes un peu des entreprises italiennes qui ne sont pas vraiment, qui sont conduites souvent au niveau familial. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des vrais managers. Et si vous mettez tout ça ensemble avec toute la structure du changement politique, bah, vous vous rendez compte, qu'en fait, les chômages de masse et la précarité, c'est l'unique résultat possible de tous ces contextes.
Il y a un ingrédient qu'on n'a pas rajouté dans l'équation, c'est la question de l'école. Parce qu'il y a bien sûr le marché du travail, mais est-ce que finalement cette incapacité à intégrer les jeunes dans le marché du travail, il n'y a pas aussi une responsabilité à aller chercher à l'école? Alors, je ne sais pas à quel niveau, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans le système éducatif italien?
Il y a eu une série de réformes sur l'éducation. Ça serait très long à expliquer, mais il ne semble absolument pas que ça soit à la hauteur. Je dis ça en tant qu'enseignante en France aussi. Je connais un petit peu la situation. On a mis en place à l'université, comme aussi dans le secondaire, des systèmes de sélection à travers des tests, à travers des qui sont très critiqués parce qu'ils ne correspondent pas vraiment à une connaissance de fond. On a un petit peu fait du saupoudrage. Je ne peux pas aller dans le détail parce que c'est complexe, mais il y a aussi là dans les enseignements, il y a une précarité de masse, c'est-à-dire que la plupart des enseignants, il faut savoir, en Italie, n'ont pas de concours. Enfin, ils ont un concours mais ils n'ont pas de poste. Vous pouvez avoir un concours et pas de poste pendant des années, même 10 ans, même 20 ans, parce qu'il n'y a pas de poste créé. Et donc, les enseignants sont obligés de parcourir parfois la péninsule d'un bout à l'autre, avec des conditions de travail qui sont vraiment désastreuses. Vous voyez, donc ça aussi fait partie des choses. C'est-à-dire que vous avez dans les services, le boom des services depuis plusieurs années, avec des conditions de travail absolument exécrables, sans accès à une santé véritable. Et vous avez même dans l'enseignement quelque chose de semblable. Même la femme de... L'épouse de Matteo Renzi, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle était précaire tout en ayant un concours. Voyez.
Emanuele Ferragina, sur cette question de l'école.
Je voulais ajouter trois choses sur l'université très rapidement. L'Italie dépense un tiers de l'Allemagne pour l'université, 7 milliards d'euros contre 21. Donc c'est très difficile de faire des bonnes politiques éducatives si vous ne mettez pas de l'argent.
Deuxièmement, mais en même temps, c'est un problème structurel de l'Italie. C'est-à-dire l'argent manque. Je rappelle que...
Oui, non, mais je suis d'accord, mais un tiers...
130% du PIB, la dette de l'Italie, oui, 130% du PIB. À partir de ce moment-là, l'Italie n'a pas de marge de manœuvre.
Non, mais ça, on peut discuter. Mais quand même, on continue à dépenser sous d'autres chapitres des dépenses qui ne rapportent pas beaucoup au pays.
Donc un problème de réorientation des budgets, c'est ça que vous dénoncez. D'accord.
Et donc 7 milliards d'euros contre 21 milliards d'euros, c'est quand même énorme. Deuxième chose, pour chaque 5 professeurs qui partent à la retraite en Italie, il y a une seule personne qui vient embaucher à partir de la réforme de 2009. Et la troisième chose, en plus, l'Italie a très peu de diplômés par rapport à d'autres pays européens. Et la grosse majorité des bons diplômés italiennes part parce que la structure productive italienne reste très arriérée. Donc, encore une fois, vous avez toutes des choses qui se relient. Alors, pour revenir sur la question de la dette publique, c'est vrai que l'Italie a une dette publique énorme, mais pour ce qui concerne les budgets primaires, l'Italie, ça fait 20 ans qu'il est très virtuose, mais les intérêts sur la dette nous empêchent d'échanger des choses. Mais ça reste l'effet qu'on pourrait dépenser un peu moins sous les pensions et sous d'autres types de politiques, et on pourrait recommencer à investir un petit peu plus sous l'université avant que l'université collapse complètement, parce qu'on parle vraiment de ça. Un tiers de l'Allemagne.
Alors, face à cette situation, on voit une jeunesse qui croit de moins en moins à sa classe politique. On le voit d'ailleurs assez nettement dans les élections où l'abstention reste en réalité le premier parti pour la jeunesse. Mais il y a d'autres partis qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et profiter d'une certaine manière de ce malaise dans la jeunesse italienne. Et on l'a vu lors des dernières élections, notamment par exemple le mouvement 5 étoiles. Les jeunes se sont pas mal tournés vers ce mouvement. Je propose d'écouter d'abord quelques témoignages de jeunes italiens.
Pourquoi le populisme a gagné? Parce qu'il promettait ce salaire de citoyenneté. Du coup, les jeunes se sont dit, bon, on a 700 euros par mois, top. Mais ils n'ont pas pensé, non, mais c'est mieux peut-être d'avoir un travail avant.
Moi, honnêtement, je suis pas sûr ce que je vais voter. De plus en plus, il y a une gauche qui fait pas la partie de la gauche, qui fait pas la gauche, elle fait un peu la droite. Moi, j'ai l'impression que cette différence entre gauche et droite, elle est pas vraiment aperçue parmi les jeunes.
Je comprends vraiment les raisons de cette, la pensée s'est noircie. On n'a même pas la liberté de penser quand on n'a pas les moyens et la frustration va croître pendant les années. C'est ça, je crois, le problème de la vision si négative.
Voilà, extrait d'un reportage de la RTBF. Quand on regarde un peu les résultats des dernières élections législatives, près d'un tiers des jeunes votants ont choisi le parti dirigé par Luigi Di Maio, jeune responsable politique pour le coup, 31 ans. Vient ensuite le parti démocrate, 20%, et enfin le parti d'extrême droite qui a réussi à réunir 14% des suffrages des jeunes contre 17% au global. Comment comprendre, Ludmila Akone, que le mouvement 5 étoiles ait gagné la bataille du vote jeune? Qu'est-ce qui, dans son discours, les a séduits?
Je pense qu'il y a trois choses. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est un parti qui s'est beaucoup créé autour des réseaux sociaux, qui a beaucoup investi dans les réseaux sociaux, mais aussi par une forme de sociabilité très très proche des jeunes, de leurs fêtes, de leur façon en fait de se mettre ensemble dans la ville et dans les espaces publics. Il y a une volonté de la part de 5 étoiles qui est affichée par 5 étoiles de faire énormément de rencontres publiques, de rencontrer beaucoup de gens, de les consulter, ça c'est leur point de vue, hein, voilà, on va en discuter, la plateforme sur Internet pour faire le contrat de gouvernement et ce genre de choses. Mais c'est un public généralement assez jeune, et même les leaders sont assez jeunes, même Di Maio par exemple est jeune, et on a aussi une volonté de la part de 5 étoiles d'aller vers les préoccupations des jeunes. Je le disais tout à l'heure, cette rencontre avec les riders, il y a aussi la question du revenu citoyen qui est sur la table en ce moment, qui rencontre leurs préoccupations et qui n'est pas vraiment, comme le disait Emmanuel, la préoccupation des plus âgés qui sont plus installés, qui sont dans cette situation-là. Et il y a un discours aussi qui est particulièrement séduisant parce que il veut aussi faire participer aussi à l'élaboration des programmes, des discussions. Vous voyez, c'est une façon un petit peu nouvelle. Ça tranche beaucoup avec les anciens partis.
Qu'est-ce qui vous est apparu particulièrement performant, Emanuele Ferragina, dans cette capacité du mouvement 5 étoiles à aller chercher cette jeunesse? C'est pas seulement les outils numériques, c'est pas seulement la proposition du revenu universel, il y a aussi d'autres choses.
Il y a un contexte social qui a beaucoup changé. Moi, j'ai fait beaucoup d'études, en fait, sous l'évolution du vote au mouvement 5 étoiles, et j'avais déjà vu, avant du gros succès électoral du mouvement 5 étoiles, qu'ils attiraient pas que les jeunes, mais qu'ils attiraient surtout les précaires et les chômeurs. Je vais revenir sur ce qu'on disait avant. En 2013, déjà 55% des précaires votaient pour le mouvement 5 étoiles. Donc avant que le mouvement 5 étoiles arrive à 33%, là ils ont eu 26% à cette époque-là en 2013. Regardez, c'est de la rationalité. Moi je trouve que c'est très rationnel de la partie des précaires et des chômeurs d'arrêter de voter pour des partis comme les partis démocrates ou avant les centre-gauche et les centre-droite, qu'ils ont fait 20 ans de réformes qui ont en fait défavorisé tous ces gens, tout en défendant des gens qui avaient des très bonnes positions. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils se sont dit, pourquoi il faut voter pour ce type de partis? Pourquoi un jeune précaire en Italie devrait voter pour des partis démocrates? Je veux dire,
C'est tout à fait rationnel, et en même temps, c'est pas sûr que ça soit assez efficace. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans cette coalition gouvernementale,
ça, on voit bien
que...
discours.
Ouais, mais c'est important de l'évoquer, parce qu'on voit bien que c'est la Lega de Matteo Salvini qui impose son agenda, qui impose ses priorités, et que Luigi Di Maio, du mouvement 5 étoiles, semble avoir du mal à trouver sa place. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que finalement, les jeunes vont une nouvelle fois être les grands perdants de l'action de ce gouvernement?
Indoutablement. Indoutablement. Et le mouvement 5 étoiles ne va pas résoudre les problèmes des jeunes. Ça aussi, je l'ai écrit même avant qu'ils arrivent au gouvernement. Il y a une raison très simple. Le mouvement 5 étoiles perd contre la Lega parce qu'ils ne sont pas organisés comme la Lega. La Lega, c'est un parti qui a une longue histoire d'ancrage territorial que le mouvement 5 étoiles n'a pas. Le personnel politique du mouvement 5 étoiles n'est pas prêt à mener ce type de bataille. Et c'est ça la raison de la prévalence de la Lega dans tout ce qui se passe en ce moment. Et ce que je vais dire... c'est que finalement, je dis pas rationnel dans le sens que ça va amener du bien aux gens, mais que c'était rationnel dans ces moments de rupture politique de voter pour eux. On peut aller plus loin. ces gouvernements ne vont pas faire des grandes politiques sociales, parce que la première chose qu'ils vont faire avant les revenus citoyens, s'ils vont la faire, c'est la flat tax, qui est la chose plus, c'est la mesure de politique publique plus inégalitaire et qui va faire augmenter encore plus les inégalités que vous pouvez faire et qui va favoriser les riches qui ne sont pas certainement les jeunes, les précaires ou les chômeurs. Donc je vais un peu préciser ce que je disais avant. C'est pas que c'est rationnel dans le sens que ça va ramener du bien, mais c'est que c'était rationnel du point de vue du choix ponctuel contre un système politique qui a toujours défavorisé les jeunes. Sous ce qui va nous ramener, je ne suis pas sûr que ça va nous ramener du bien. Par contre, je pense que ça va devenir des pires en pires.
On va évoquer dans un instant la question de la Lega, mais toujours sur ce mouvement 5 étoiles, Ludmila Akone.
Je ne sais pas si 5 étoiles va répondre ou pas au défi. Pour l'instant, 5 étoiles a promu le décret dignité contre la précarité. Est-ce que c'est une bonne mesure ? C'est une longue question. C'est qu'il me semble qu'il y a une fracture entre générations, mais pas simplement entre les jeunes et les plus âgés. C'est entre ceux qui sont exclus du monde du travail, à savoir, et de la protection sociale, à savoir les plus vieux, justement, et les plus jeunes. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une fracture. Et si vous voulez, lorsque vous voyez, par exemple, le Parti démocrate de Renzi, qui a fait le Jobs Act et qui a fait aussi la loi Fornero sur les retraites, c'est-à-dire les retraites jusqu'à 70 ans, il est évident que ce n'est pas perçu comme quelque chose qui va dans le sens d'une plus grande équité sociale, qu'on soit d'accord ou pas. Donc, lorsque aujourd'hui, on voit que même par exemple, en 2016, il y a eu le référendum de changement constitutionnel. On voit qu'il y a une énorme majorité de personnes qui ont voté contre ce changement constitutionnel, y compris pour des valeurs de référence à la Constitution. Donc, il n'y a pas que les jeunes, finalement, qui se sont révoltés contre cet état de fait. Oui.
La Lega, Ludmila Akone, elle est parvenue à séduire une partie de la jeunesse. Quand on regarde les chiffres, 14% des suffrages des jeunes sont allés au parti de Matteo Salvini contre, je le disais tout à l'heure, 17% au global. Donc il y a d'abord un premier enseignement, c'est que bien que les jeunes aillent aussi vers l'extrême droite, ils restent en réalité moins nombreux en proportion que le reste de la population. Mais pour autant, ils existent. Ils sont là, ces jeunes qui votent pour la Lega. Pourquoi votent-ils pour la Lega ?
Je pense qu'il y a d'abord une question, c'est sortez les sortants. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté de rompre avec les anciens partis politiques et que en face, on voit pas grand-chose s'opposer, hein, vous voyez. Donc il y a ça. Après, il y a une prise de contrôle du territoire et d'une certaine idéologie de la part de la Ligue depuis plus de 20 ans qui a semé un discours raciste anti-immigration depuis plus de 20 ans et notamment, mais pas seulement dans le Nord, avec des coups d'éclat extrêmement violents contre les immigrants, y compris le ministre Calderoli qui voulait aller tirer sur les Zodiacs qui venaient. Vous voyez, il y a tout ça. Donc tout ça, il y a une banalisation progressive du discours raciste qui fait que finalement, beaucoup de jeunes voient la situation qui est terrible, qui est la leur, et ils voient ces gens qui arrivent et ils sont séduits par ce discours qui finalement oppose les uns et les autres. Je pense qu'ils sont plus séduits que captifs finalement dans ce discours. C'est un discours qui tombe sous le bon sens. Voilà, nous n'avons pas de travail et puis eux ils arrivent. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. Mais il y a le vide en face. Vous voyez, vous avez des partis traditionnels qui n'ont rien fait pour les jeunes ou du moins c'est comme ça qu'ils sont perçus et semble-t-il. De leur point de vue, ils ont aggravé la situation. Donc, ils sont absolument pas crédibles. Il n'y a rien en face, voyez.
Emanuele Ferragina, sur cette question du vote jeune envers l'extrême droite et en l'occurrence envers la Lega, et peut-être une question pour aller un peu plus en profondeur, on pourrait se demander s'il existe une corrélation entre les difficultés des jeunes, par exemple si on regarde le taux de chômage chez les jeunes, et le vote d'extrême droite. Si on fait un peu de géographie électorale, est-ce qu'effectivement on trouve des corrélations assez nettes?
Pas encore. Après, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'on considère pour l'extrême droite et droite et où on place dans ces schémas le mouvement 5 étoiles. Parce que les partis qui est plus attractif pour les jeunes, c'est le mouvement 5 étoiles suivi par les partis démocrates encore. Donc moi, je dirais que la Lega, finalement, c'est pas un parti qui attire beaucoup les jeunes, comme vous l'avez dit. En fait, les pourcentages mineurs, la Lega, c'est un parti qui attire surtout les esprits conservateurs du pays. Et ça, et la chose qui est assez impressionnante, c'est la mutation de la Lega. C'est là où il faut vraiment s'interroger. C'est-à-dire qu'avant, c'était un parti qui prenait des suffrages que dans le nord d'Italie. Progressivement, il est passé au centre. Et aujourd'hui, aux dernières élections, la Lega a pris 9% en Calabre. ce qui est assez impressionnant. Et en fait, la transformation de la Lega, on la comprend, à mon avis, si on peut la comparer aussi au Front National. C'est-à-dire que c'était un parti qui essayait de collecter des votes, surtout des gens qui protestaient contre les systèmes fiscaux. C'est plutôt cet esprit du Nord qui était fort dans le Nord d'Italie contre un État qui taxait trop les gens, apparemment. Et progressivement, commencer à faire passer cette idée d'une partie plutôt plus nationaliste que régionaliste. C'est ça la grosse transformation que Salvini est en train d'amener sur les modèles du Front National. C'est pas un hasard qu'il y a beaucoup de contacts et souvent les leaders de la Lega mentionnent le Front National comme modèle d'inspiration. Donc moi je dirais, pour ce qui concerne les votes jeunes, je pense pas que la jeunesse italienne est vraiment en train de tourner vers l'extrême droite. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens qui se tournent vers l'extrême droite, c'est des gens qui vont plutôt bien, parce que l'électorat de la Lega est beaucoup moins pauvre que l'électorat du Mouvement 5 étoiles. Mmh. Donc c'est quand même un électorat qui se voit perdre relativement par rapport au changement, mais c'est quand même un électorat qui a des positions économiques beaucoup plus fortes que c'est du Mouvement 5 étoiles. Donc c'est pas vraiment, à mon avis, les partis qui va canaliser les votes des gens vers l'extrême droite. Mais après, il faut voir.
Sortons peut-être aussi de la logique purement partitaire, Ludmila Hakone, parce qu'on peut penser évidemment que le discours anti-immigration de Matteo Salvini peut nourrir chez ses électeurs un sentiment raciste, mais il se forge aussi dans d'autres sphères que la seule sphère politico-médiatique. Et je voudrais peut-être qu'on s'attarde un peu sur ce sujet-là, qu'on regarde un peu les enceintes formelles ou informelles dans lesquelles une certaine jeunesse italienne développe, bâtit ses convictions racistes. Alors, il y a peut-être un élément là qui on peut avancer, c'est ce qu'on appelle Casa Pound. Alors, on va expliquer un tout petit peu pour les auditeurs. C'est un parti politique d'inspiration nationaliste révolutionnaire qui a émergé il y a une quinzaine d'années en 2003 à Rome, ville que vous connaissez bien puisque vous en êtes originaire. Et puis, progressivement, il s'est un peu répandu partout dans le pays à travers des associations. Est-ce que vous pouvez essayer de nous aider à comprendre d'abord les fondements idéologiques de ce groupe? Et est-ce que vous diriez qu'on est en train de réinventer avec ce Casa Pound ce qu'on appelle, ce que beaucoup de médias appellent le fascisme du troisième millénaire?
Alors, Casa Pound, ça vient de Ezra Pound, hein, et c'est une volonté de faire à l'extrême droite fasciste ce que les Italiens de gauche, d'extrême gauche, ont fait dans les squats et dans les centres sociaux autogérés qui existent dans les années 70, c'est-à-dire des lieux qui étaient avant tout des squats où l'on faisait de la politique, de l'entraide et de l'idéologie. Et ces collectifs Pound sont devenus des lieux d'agrégation territoriale où parfois justement il y a une vacance de pouvoir local qui aide les jeunes à trouver un endroit où se rencontrer. Et il y a une volonté politique. C'est exactement comme la Ligue. La Ligue n'est plus simplement dans le Nord. C'est pas parce qu'il y a un ruissellement vers le Sud. C'est une volonté politique d'investir le centre et le Sud. Volonté mise en avant par Salvini. Casa Pound, c'est vraiment un endroit où on trouve des nostalgiques du fascisme qui ont des emblèmes, qui ont ce genre des saluts romains, comme on dit, les saluts fascistes. Et ils essayent de construire une base idéologique pour donner des os, hein, de la chair à ces mouvements d'extrême droite qui essayent de résurgir de façon ponctuelle tous les ans. Quasiment depuis la libération. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau en soi. En revanche, il y a une volonté d'investir le terrain idéologique, parfois laissé vacant par des groupes de gauche. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et si vous voulez, même dans le 5 étoiles, vous voyez bien qu'il y a un tiers, semble-t-il, de leurs électeurs qui viendraient de la gauche, du PD. Donc vous avez un transvasement qui s'opère, là où il y a un petit peu du vide, ou en tout cas pas assez d'investissement, et des groupes qui essayent de coaliser des forces.
Ezra Pound, je rappelle, donc Casa Pound de Ezra Pound, qui était un poète américain ouvertement sympathisant du régime fasciste. Donc on voit qu'effectivement on revendique ce passé fasciste.
C'est très idéologisé.
Le Mussolinisme est vraiment revendiqué
très
assez largement par ces groupes.
Ils essayent vraiment de donner une structure idéologique à ce moment.
Est-ce que vous avez le sentiment, Emanuele Ferragina, je ne mets pas l'accent tonique au bon endroit, qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette capacité de ces groupes à s'implanter dans la société italienne? Je lisais par exemple un article très intéressant dans la dernière revue du Crieur sur justement les Casa Pound dans la société italienne, un article intitulé « Jeune Italien fasciste et branché » de Christian Rémo, excellent travail d'enquête où il va dans les lycées mais aussi même dans les collèges et où il croise des jeunes gens de 12-13 ans qui lui disent « mais oui, on est fasciste ». Alors il y a là quand même quelque chose de nouveau dans cette capacité à s'implanter au plus profond de la société italienne.
Je pense qu'il faut faire attention. Il y a pas mal d'enquêtes et d'études sur Casa Pound. Si vous voulez, je vous cite. Il a l'excellent travail de Caterina Froio sur ce sujet. En fait, il y a d'un côté, au niveau culturel et idéologique, où monter dans ces groupes de revenir à l'idée des fascismes. Mais quand vous regardez à l'impact de ces groupes sur la société italienne, c'est un impact très très bas. À chaque fois que Casa Pound a essayé de participer à des élections, les pourcentages ont été très très bas. Donc moi je pense que d'un côté il faut être très attentif et étudier au niveau qualitatif l'idéologie qui est ramenée par ces gens, mais au niveau d'impact sur la société c'est pas très fort. Ce qui est inquiétant, c'est que Matteo Salvini par exemple, il s'est beaucoup rapproché de ces gens, donc il essaye un peu d'utiliser ça un peu comme une pointe, ça on connaît bien dans l'histoire, comme une pointe d'entrée dans la société pour progressivement bouger plus à droite. Mais moi, c'est que je pense, c'est que peut-être dans cette période, la capacité des Casa Pound d'attirer quelques jeunes, pas beaucoup, c'est un peu un cri des classes détourné. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent plus à s'exprimer dans la gauche ou dans une gauche plus sociale, ils trouvent peut-être dans des idées qui se rapprochent du fascisme une idée des protections sociales. Et cette idée des protections sociales est bâtie contre l'idée des migrants. Mais il faut faire vraiment attention. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses dans la presse française, dans la presse anglaise, sous Casa Pound, et je pense qu'on fait un faveur à ces groupuscules fascistes de dire qu'ils ont un impact énorme sur la société italienne. En fin des comptes, c'est vraiment marginal. En Italie, on continue à avoir des mouvements sociaux très fort, implanté dans beaucoup de villes, si on pense à Naples, qui sont à gauche. Donc quand même, il n'y a pas que Casa Pound en Italie pour ce qui concerne les mouvements sociaux qui impactent sur la gestion des villes et sur l'idéologie des jeunes. Il y a encore beaucoup de jeunes qui quand même s'inscrivent dans des mouvements à gauche. L'exemple de Naples est plutôt intéressant de ce point de vue-là.
Ludmila Akone, est-ce que vous êtes d'accord avec Emanuele Ferragina quand il nous dit que finalement il ne représente pas une menace politique très importante? Certes, il existe, parce que c'est quand même leur ambition, hein, précisément, que de prendre le pouvoir par les urnes.
D'un point de vue numérique, il ne représente pas grand-chose. En revanche, c'est au niveau d'une stratégie d'hégémonie qu'ils sont effectivement dangereux, dans la mesure où des partis, des groupes, par exemple, d'extrême droite ou des partis d'extrême droite, ou qu'on peut appeler extrême droite comme la Ligue, peuvent avoir besoin en fait d'une dose d'idéologie qui peut aider, si vous voulez, toute une frange et sociale et politique pour se donner en fait un contenu. Mais je voulais aussi revenir sur ce que disait Manuel et sur la question des mouvements dans le Sud. Il y a des mouvements de contestation dans le Sud extrêmement importants, avec une longue lutte des chômeurs depuis plusieurs années, qui sont vraiment très très importants et numériquement sont nettement plus importants que ces mouvements-là. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est au niveau de l'idéologie et de l'hégémonie qu'ils peuvent avoir dans la société, la façon dont ils peuvent être récupérés par les uns et par les autres. Et même dans les mouvements de contestation du Sud, on voit qu'il y a une volonté d'essayer de entrer dans ces mouvements du Sud qui traditionnellement sont à gauche pour essayer de les tourner dans un sens plus droitier.
Vous pouvez illustrer justement ça?
Par exemple, je pense au mouvement des Forconi. C'est un mouvement de gens qui, soi-disant non organisés, sont arrivés avec des fourches pour protester contre la situation du désastre social dans le Sud, et qui en fait se sont révélés des gens franchement d'extrême droite qui ont fait des actes de violence et qui ont revendiqué des signes d'appartenance et des slogans très clairement anti-immigrés et d'extrême droite.
On est avec vous ce matin, Ludmila Akone et Emanuele Ferragina. On parle de cette jeunesse italienne dans une série consacrée à l'Italie, l'inquiétant miroir de l'Europe. Au cœur de l'été, il y a une agression, l'agression d'une jeune athlète de 22 ans qui a provoqué une vive émotion. Elle s'appelle Daisy Osakwe, elle est d'origine nigériane. Elle habite une petite ville à côté de Turin et un soir, alors qu'elle rentre chez elle, une voiture s'approche et l'un de ses occupants lui lance un projectile en plein visage.
J'ai senti un choc très fort au niveau de mon œil. Je me suis jetée à terre et lorsque je me suis touchée le visage, j'ai senti ce liquide. J'étais effrayée. Je croyais que c'était de l'acide. Je suis désolée de le dire, mais j'en suis certaine, c'est un acte de racisme.
Alors, finalement, cette attaque n'était pas une attaque raciste. Le procureur de Turin n'a pas retenu le caractère raciste. Les agresseurs s'en étant pris par ailleurs à un autre homme blanc, en l'occurrence, ainsi qu'à une maison de retraite. L'affaire a provoqué d'importants débats avec, d'un côté, ce cri qui criait, pardon, à la manipulation, considérant qu'on instrumentalisait une agression qui n'avait aucun caractère raciste, et puis les autres expliquant que même s'il n'y avait pas de motivation raciste sur cette affaire-là, il n'en demeure pas moins que les attaques racistes se sont multipliées ces derniers mois, ce qui est vrai. C'est une affaire très intéressante, et je vais encore me tourner vers vous, Ludmila Hakone, vous êtes historienne, parce qu'elle révèle peut-être une grande difficulté en Italie à évoquer toutes ces questions relatives aux questions raciales. On a l'impression qu'il y a parfois une forme de déni du racisme en Italie. On le réfute du côté de l'extrême droite, ça on le comprend, mais parfois aussi à gauche et les forces progressistes. Alors comment expliquer ce déni, ce tabou du racisme en Italie? D'où vient-il, vous qui êtes historienne?
Alors, je l'ai déjà dit dans une autre émission, toujours chez vous, sur France Culture, je pense vraiment qu'il y a un déni du racisme en Italie et un impensé sur le racisme qui, d'un point de vue historique, se comprend par une incapacité à faire la différence entre le racisme idéologisé et racialisé des lois raciales de 38 en Italie et ce qui se passe au jour le jour. Je pense que lorsque vous entendez les médias, encore hier, mais tous les jours, j'entends dans les médias désigner l'appartenance ethnique de la personne supposée avoir commis un crime. Tous les jours, j'entends ça dans les médias, vous comprenez? Ce genre de choses, c'est quelque chose qui va donner une impression de surabondance de crimes soi-disant commis par des immigrés et qui donne vraiment un sentiment d'encerclement. La question du racisme en Italie, elle doit être comprise aussi parce qu'il y a une impossibilité en Italie à évoquer sereinement le fascisme et le racisme des années 30. Parce que en Italie, il y a eu quand même des lois raciales, mais même avant les lois raciales de 38, il y a eu une théorisation de du racisme vers les Africains du Nord, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait compris par les Italiens, qui n'est pas tout à fait digéré par les Italiens, qui continue à dire, comme le disait Angelo Del Boca, les Italiens sont des braves gens. Non, les Italiens ne sont pas plus des braves gens ni pires que les autres lorsqu'ils sont dans une situation de guerre ou comme on l'a vu, ils peuvent commettre des crimes, pas plus ni moins que les autres, et il faut voir l'histoire avec sérénité. Les Italiens fascistes en Éthiopie ont commis des crimes sanglants et il y a une difficulté en Italie à vouloir admettre ça, et ça c'est un des, à mon avis, des problèmes qui empêchent de comprendre le racisme.
Emanuele Ferragina, est-ce que le tabou du racisme est en train de sauter avec cet afflux, j'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas cette arrivée massive, réelle ou perçue, de migrants sur les côtes italiennes?
Il y a un donné qui est, je pense, très important, c'est que l'Italie, c'est un pays d'immigration nouvelle, très récente. En Italie, au début des années 2000, on avait 2 millions d'immigrants. Là, on a plus que 6 millions. Et ça s'est passé très, très rapidement. Et donc, ce que je pense qui s'est passé dans la sphère politique, cet accroissement de l'immigration dans un moment des crises a été un peu vu et utilisé par les hommes politiques comme en fait, pour se dire, on est un pays en crise, bon, on a trouvé un bouc émissaire, c'est les migrants. L'Italie, c'est pas un pays qui était traditionnellement pas très raciste, pas plus raciste que d'autres pays européens, au moins si vous regardez les enquêtes sur les questions de racisme. Mais en fait, dans cette situation de crise, l'accroissement de l'immigration et l'utilisation continue des médias, parce qu'en fait, les crimes commis par les migrants ne sont pas un pourcentage plus élevé par rapport aux crimes commis par les Italiens blancs. En fait, ça a accru cette idée. Après, moi, j'aime bien cette référence que Ludmila faisait avant, le célèbre idée des Italiani brava gente. Nous, on a bâti une histoire de notre colonisation très différente par rapport à l'histoire française ou anglaise. C'était l'idée que nous, finalement, on n'était pas méchantes, alors qu'on était les premières européennes à utiliser du gaz, et on a fait pas mal de mauvaises choses. Donc je pense que toute cette histoire un peu culturelle, mélangée avec l'effet qu'il n'y en a pas une grosse histoire d'intégration des migrants et la crise économique, ramène ces contextes où d'un côté, il y a un racisme qui monte. Vous ne pouvez pas aller en Italie dans un lieu public sans entendre des gens qui parlent contre les migrants. Moi, je l'ai vu dans les jours où j'étais en Italie. Et de l'autre côté, c'est quand même assez particulier que ça se passe dans des endroits comme le sud d'Italie où on devrait avoir, au niveau culturel, on est très proche des Maghrébins, il n'y a pas beaucoup de distance. Mais ça se développe, à mon avis, pour toutes ces causes qu'on évoquait, qui se passent un peu tout ensemble.
Ludmila Hakone, encore un mot, puis ensuite on va parler de la question de la démographie.
Oui, alors, il y a un discours là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, les Italiens n'ont pas compris cette immigration qui est arrivée à partir des années 80, puisque la plupart, les Italiens n'ont pas été très colonisateurs par rapport à d'autres pays, n'ont pas compris cela. Et donc, c'est un problème aussi de compréhension culturelle. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. La Ligue, qui est née dans les années 80, c'était un mouvement d'abord qui était contre les Italiens du Sud. Hein? Donc c'était les Terroni. Hein? Voilà, et ensuite seulement, c'est devenu un mouvement contre les immigrés. C'est-à-dire qu'il a bâti son fonds de commerce sur un vide et aussi sur le fait que l'Italie, la Constitution interdit la reconstitution d'un parti fasciste et que donc on ne pouvait pas faire un parti à base sociale fasciste en Italie. Telle quelle. Par contre, un parti régionaliste, lui, était totalement dédouané parce qu'on disait, voilà, c'est un parti régionaliste, les fascistes sont nationalistes, donc nous ne sommes pas fascistes. Vous voyez, il y a ça. Et le discours de la Ligue a commencé sur le fonds de commerce des Italiens du Sud qui étaient stigmatisés, et sur le même type de discours, ils ont dérivé vers l'immigration.
Il y a un point, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question de la natalité. L'Italie, c'est un des pays qui a les le taux de fécondité le plus bas en Europe. On va évoquer justement cette question démographique.
Le 22 septembre sera le premier Fertility Day. Il s'agit de la première journée nationale de sensibilisation et d'information dédiée à la prévention de la santé reproductive. Pourquoi un Fertility Day? C'est une question de santé. Malheureusement, une proportion trop élevée de couples qui consultent un spécialiste ou font un contrôle découvrent qu'ils ont de graves problèmes d'infertilité. C'est un vaste sujet sur lequel on n'est pas assez informé et qui a besoin d'être traité tant du point de vue thérapeutique que préventif. À qui s'adresse ce Fertility Day? À tous, mais en particulier aux très jeunes qui aujourd'hui ne se préoccupent pas de la santé reproductive.
Voilà, le Fertility Day mis en place par le gouvernement en septembre 2016 par Béatrice Lorenzin, la ministre de la Santé, à l'époque pour tenter de sensibiliser les jeunes au problème de la baisse de la fertilité, une initiative qui n'a pas été du tout du goût des Italiens, qui a provoqué un tollé général au point de rapidement annuler l'opération. Voilà qui en dit long aussi sur le caractère aussi peut-être un peu tabou de cette question de la natalité en Italie. L'Italie qui est aujourd'hui le pays le plus vieux d'Europe et les données dont on dispose sur l'évolution de la démographie ne sont pas rassurantes du point de vue du renouvellement des générations. Elles en disent long aussi sur les conditions de vie des jeunes Italiens. C'est ce que nous explique la démographe Laetitia Mencarini de l'université Bocconi de Milan. Elle est au micro de Mélanie Chalandon.
We can start with fertility, maybe is the most hot issue.
On pourrait commencer par parler de la fécondité, qui est sans doute la question la plus brûlante. Ce qui se passe en Italie, c'est que le nombre de naissances est en baisse depuis plusieurs années, et par conséquent, c'est la taille de toute une génération qui rétrécit. Mais pas uniquement à cause d'une baisse de la fécondité, qui existe certes, mais qui n'est pas très marquée. On peut même dire qu'à quelques différences près, la fécondité est plus ou moins stable depuis les années 90. Elle avait repris légèrement au début du siècle, mais ensuite, la crise économique est passée par là. Mais bon, dans l'ensemble, la situation n'a pas trop changé. Le taux de fécondité est d'à peu près 1,4, voire un peu moins. Donc une fécondité basse, mais qui ne change pas. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Italie présente ce taux de fécondité bas depuis si longtemps qu'il a fini par entraîner une diminution du nombre de naissances simplement parce que les parents potentiels d'aujourd'hui, c'est-à-dire la génération qui est aujourd'hui en âge d'avoir des enfants, sont déjà le produit d'une faible fécondité. Les Italiens qui ont la trentaine aujourd'hui sont nés à une époque où la fécondité en Italie est déjà basse.
Mais comment explique-t-on que ce taux de fécondité soit depuis si longtemps aussi bas en Italie ?
Alors, la chute des naissances en Italie a commencé de façon très classique. plus ou moins de la même manière que dans le reste de l'Europe. Dans les années 70-80, on a vu apparaître le désir d'avoir moins d'enfants et les femmes ont commencé à faire plus d'études et à avoir des enfants plus tard. Mais dans certains pays comme la France, la fécondité n'a jamais plongé complètement. Alors qu'en Italie, dans les années 90, le taux s'est effondré. Nous en étions à 1,2 en 95-96. Je crois que malheureusement, l'Italie en ce moment n'est pas un pays très famille. Nous n'avons pas de politique familiale. Et puis surtout, les jeunes ont leur premier enfant très tard. Nous avons l'âge moyen de la première maternité la plus élevée d'Europe. Et cela détermine aussi le reste de la courbe de la fécondité. Parce que si vous commencez très tard, il est plus probable que vous aurez moins d'enfants. Et puis, comme je le disais, les aides sociales ne sont pas géniales. Je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Et un élément clé d'ailleurs, c'est que dans notre pays, toute l'organisation du travail et de la famille a changé à partir du moment où les femmes sont entrées sur le marché du travail. Alors qu'en Italie, rien n'a vraiment bougé. Et surtout, pas les mentalités. Lorsque vous demandez quelle est la place des femmes, lorsque vous demandez aux Italiens ce qu'ils considèrent important pour une femme, ils vous répondent « être mère ». Et il y a là une espèce de grosse contradiction d'une certaine manière. C'est ce qu'ils pensent, mais les conditions ne sont pas réunies. Et les femmes, les jeunes femmes surtout, ont un bon niveau d'études, parfois même supérieur à celui des hommes, mais elles ne trouvent pas de travail. Le marché du travail est très incertain pour les jeunes, surtout depuis quelques années. Donc ce n'est pas vraiment l'idéal pour avoir un enfant.
En 2016, la ministre de la Santé, Béatrice Lorenzin, du gouvernement Matteo Renzi, avait mis en place une journée spéciale, le Fertility Day, pour sensibiliser les jeunes à la question de la baisse de la fertilité à partir d'un certain âge. Mais cette campagne, semble-t-il, avait été assez mal reçue par les Italiens. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Well, the Fertility Day was...
La journée de la fécondité a été complètement loupée côté communication. L'idée de départ n'était pas mauvaise à mon sens. Et d'ailleurs, ce n'était pas une initiative du gouvernement, mais de la ministre de la Santé. Elle pensait, avec raison, qu'en Italie, nous nous mettons à avoir des enfants trop tard. Elle a voulu sensibiliser les Italiens au fait que nous ne pouvons pas non plus nous permettre de trop attendre. Parce que oui, c'est vrai. Nous vivons plus longtemps et nous avons décalé dans le temps pas mal d'étapes de nos vies. Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas repousser encore. C'est la fin de la période fertile. C'était un peu cela l'idée. Mais le problème est venu du fait qu'ils ont décidé d'utiliser le terme anglais « Fertility Day », ce qui a entraîné plein de malentendus. Parce qu'en italien, c'est l'inverse. Fertilità veut dire fertilité, fecundity en anglais. Et fecundita, fertility en anglais, le nombre d'enfants. Donc, on a eu un méli-mélo entre faible fécondité, capacité à se reproduire, et le message a été totalement brouillé. D'ailleurs, les jeunes se sont sentis très offensés, parce que si vous n'avez pas de boulot et que vous traversez des difficultés économiques, vous n'allez pas apprécier ce qu'on vous dise. Ok, mais vous devez avoir un enfant là, maintenant, parce que sinon, dans 2 ou 3 ans, votre fertilité va baisser. J'ai l'impression qu'en France, on défend la fécondité depuis les années 50 et que c'est ancré dans votre culture. En Italie, nous n'en avons pas l'habitude.
Est-ce que vous avez l'impression que les différents responsables politiques ont pris la mesure du problème du renouvellement des générations en Italie ?
Le gouvernement actuel, je ne sais pas. Bon, soit dit en passant, il ne semble pas aborder beaucoup la question, ni de façon très précise. Mais je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une simple projection de l'évolution du nombre de jeunes d'ici 20 ans indique clairement que la pyramide des âges sera encore plus déséquilibrée qu'aujourd'hui. Mais je pense que malheureusement, le temps politique est très court et que parfois, les politiques essaient de faire plaisir à la majorité des électeurs. Et aujourd'hui, ce sont les seniors qui sont en majorité.
Est-ce qu'aujourd'hui, Laetitia Mencarini, l'immigration qui arrive en Italie est en mesure de compenser la baisse de la population italienne, notamment la baisse des naissances ?
Non, effectivement, parce que la population évolue à partir d'entrées et de sorties. Les entrées, ce sont les naissances et les immigrants, et les sorties, ce sont les décès et les immigrants. Et ces dernières années, les sorties, c'est-à-dire la somme des décès et des émigrants, car nous avons encore d'importants mouvements migratoires vers l'étranger, ne sont pas compensés par les naissances et les arrivées d'immigrants. La population baisse.
On parle beaucoup du phénomène de la fuite des cerveaux en Italie, ces jeunes Italiens qui quittent le pays. Mais est-ce qu'on a des données précises sur le nombre de jeunes qui partent effectivement vivre et travailler à l'étranger ?
Alors, il y a des chiffres qui circulent. On parle d'environ 200 000. Mais il y en a quand même aussi qui reviennent. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème très grave, sauf peut-être s'agissant du type de personnes qui partent. Les jeunes Italiens qui partent à l'étranger pour travailler sont généralement ceux qui ont fait le plus d'études. C'est donc une émigration radicalement différente de celle que nous avons eue il y a 30, 40 ou 50 ans. Ce sont les diplômés qui partent, et on parle de diplômés du troisième cycle, voire des doctorants. Et cela ne poserait pas de problème si le mouvement était circulaire. Or, les Italiens partent, mais peu reviennent.
Laetitia Mengarini, démographe, professeure à l'université Bocconi de Milan, au micro de Mélanie Chalandon. Ludmila Akone, la question de la démographie, des politiques familiales en Italie, ça a été un sujet pendant la campagne italienne ?
Pas un sujet. Disons que ce qui a été il a été question de dire, voilà, finalement, l'immigration, ça sert à résorber la baisse de la natalité. Ça, oui, ça a été. Mais si on regarde plus précisément la situation réelle de la natalité et la situation de la fécondité, il faut savoir que les allocations familiales en Italie, ça vous permet à peu près de acheter un paquet de chips, voyez, quelque chose comme ça. Voyez, c'est rien du tout. Il n'y a aucune politique d'aide, familiale. Aucune. Et d'ailleurs, il faut aussi rappeler que avant, c'était l'Église qui s'occupait de ces questions de la voilà du welfare state. Hein. Donc il y a ça. Donc il n'y a aucune aide. Il y a une précarité absolument terrible des femmes. Il n'y a aucune garantie pour une femme enceinte. C'est-à-dire, dans la loi, oui, mais de facto, elle n'est pas mise en place. Et donc, les femmes, elles savent très bien qu'il n'y a pas de crèche non plus. Et que soit elles travaillent et elles peuvent payer la crèche. Si elles peuvent payer la crèche, eh ben, voilà, soit l'un, soit l'autre.
Emanuele Ferragina, là, il y a une révolution aussi à opérer dans le domaine des politiques familiales. Hein.
Absolument. L'Italie, c'est un des pays qui dépense moins pour les crèches de 0-3 ans. Si vous faites pas ça, c'est impossible pour les femmes de travailler et avoir des enfants. Si vous comparez par rapport à la France et d'autres pays européens, comme les pays scandinaves, nous, on est très, très arriérés. Si vous mettez ça tout ensemble avec la condition socio-économique du marché du travail, vous comprenez que pour faire un enfant en Italie, il faut du courage, surtout au sud. Dans ma ville, les enfants qui sont couverts par des crèches de 0-3 ans, c'est que 6% des enfants. Donc pour les gens, c'est vraiment très difficile de s'engager dans ces parcours. Et je pense que c'est pour cette raison que les Fertility Day s'est très mal passé, parce que les gens ils l'ont perçu comme une accusation personnelle, alors que c'est vraiment un problème structurel.
Et le nouveau gouvernement, le mouvement 5 étoiles, la Lega de Matteo Salvini, c'est pas des sujets du tout qui...
C'est pas des gros sujets en ces moments. C'est
pas des gros sujets en ces moments. Ça l'a pas été pendant la campagne.
Ouais.
La prima estate, qu'on peut traduire par le premier été. Le premier été de la coalition Mouvement 5 étoiles Lega, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour parler de cette jeunesse italienne. Ludmila Akone, je rappelle que vous êtes historienne et chercheuse associée à l'Université Paris 1. Emanuele Ferragina, sociologue, professeur à Sciences Po au sein de l'Observatoire sociologique du changement. Merci infiniment. Merci. Heures, presque 54 minutes, on va recevoir notre jeune à nous.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Jeune pour toujours. Bonjour Florian.
Absolument, jeune un jour, jeune toujours. Vous nous avez présenté hier, Brice, un livre écrit par deux sociologues américains qui distinguent trois cultures correspondant à trois grands moments de notre civilisation. La culture de l'honneur, culture de la dignité et culture de la victimisation.
Oui, et finalement, ce qu'il y a de plus nouveau dans ce livre, The Rise of Victimhood, c'est probablement la seconde, la culture de la dignité. Parce que l'antinomie fondamentale entre un pôle héroïque et un pôle victimaire n'est pas d'une grande nouveauté. Elle Elle a été magnifiquement exposée par un de ses grands esprits français, ayant fait carrière dans de prestigieuses universités américaines, Jean-Marie Apostolides. Apostolides est professeur à Stanford, mais il a aussi été enseignant à Harvard, et dans son ouvrage « Héroïsme et victimisation, une histoire des sensibilités » qui date de 2003, il montrait déjà comment ces deux principes avaient structuré l'histoire des sensibilités en Occident. Et pour résumer, l'héroïsme, c'est l'héritage de notre histoire antique, le héros grec ou romain qui sacrifie volontiers sa vie et celle des autres à la gloire de sa cité, et la pitié, elle nous vient de notre héritage judéo-chrétien et précisément du sixième commandement, tu ne tueras point. La grandeur du héros tient à sa liberté et elle s'inscrit dans le cadre d'une société régie par une logique verticale, fortement hiérarchisée. La logique victimaire, elle, implique au contraire l'horizontalité des fratries. Tandis que le patriotisme cultivait une version héroïque de l'histoire, la déploration victimaire débouche aujourd'hui sur le communautarisme et la prédominance des mémoires collectives. Alors deux événements, selon Apostolides, deux événements historiques précis ont ruiné le mythe de la grandeur héroïque et entraîné cette mutation radicale des sensibilités occidentales, le massacre des protestants français lors de la Saint-Barthélemy et le génocide des juifs par les nazis lors de la Shoah. Or, mes deux sociologues, Bradley Campbell et Jason Manning, s'ils reprennent à leur compte l'antagonisme fondamental posé par Apostolides entre ce culte du héros qu'ils rebaptisent culture de l'honneur et pitié pour les victimes ou culture de la victimisation, introduisent, je le disais, un troisième thème, la culture de la dignité. Et cela permet de sortir, de manière dialectique, d'un piège idéologique redoutable. Car qui peut aujourd'hui, à l'exception de quelques kamikazes sanguinaires rebaptisés martyrs, assumer les valeurs de l'héroïsme classique? De l'autre côté, la culture de la victimisation entraîne les pathologies sociales que nous avons sous les yeux, telles que la concurrence victimaire et une atrophie du lien social sous le coup de la montée des communautarismes. Une méfiance réciproque entre les sexes, en particulier, qu'on observe aux États-Unis.
Cette culture de la dignité, Brice, si je vous suis bien en tout cas, c'est plus ou moins lié à la modernité démocratique ?
Eh oui, tandis que la culture de l'honneur serait liée aux sociétés aristocratiques et la culture de la victimisation aux sociétés postmodernes, ou en tout cas, si vous voulez, postnationales. Or, le grand mérite de cette culture de la dignité, c'est qu'elle implique des droits égaux pour tous, tandis que les deux autres sont inégalitaires par principe. La culture de l'honneur régit des sociétés aristocratiques dans lesquelles l'échelle sociale est censée correspondre au degré de bravoure, mais aussi au prestige du nom qu'on porte. Quant à la culture de la victimisation, elle crée une hiérarchie nouvelle de statuts moraux. C'est votre identité collective en tant que plus ou moins victimisée qui décide de votre place dans la société. C'est elle qui vous confère ou non des droits et des créances spécifiques. Votre place ne tient donc pas à vos propres vertus, ni à votre apport spécifique à cette société, mais à la façon dont vous-même, ou plutôt vos ancêtres, ont ou n'ont pas été maltraités, opprimés, ségrégés par cette société. Ainsi, pour citer cet exemple donné par Campbell et Manning, seules certaines minorités peuvent se proclamer victimes d'appropriation culturelle. Un étudiant blanc qui se coiffe façon rasta en se faisant des dreadlocks tombe sous le coup de cette accusation de appropriation culturelle, tandis qu'un noir qui se coifferait comme un blanc ne saurait subir la même accusation. C'est, disent les autorités qualifiées, une fausse application du concept. Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué lundi le cas de cette enseignante, Avital Ronel, accusée par un de ses étudiants de l'avoir harcelée sexuellement. Car il faut savoir que pour certaines féministes, un homme ne saurait bénéficier du statut de victime de harcèlement. De la même manière, pour beaucoup d'activistes sur les campus, un blanc ne saurait être victime de racisme, ce qui n'est pas évident.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique fort intéressante, The Rise of Victimhood, qui est donc le livre de ces deux auteurs américains qu'on conseille à nos auditeurs, qui n'est pas encore traduit. Peut-être que ça viendra dans quelques années.
Je le conseille à un éditeur surtout.
Absolument, un éditeur. On vous retrouvera bien sûr demain. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.